de remercier l'Institut Michel Villet et notamment ses directeurs, Olivier Beau et Denis Barranger. Donc merci beaucoup, cher Olivier, d'avoir organisé cette table ronde. Je suis à la fois très honoré et très, très impressionné par l'organisation de cette table ronde. Et ce n'est pas du tout, pour commencer, de la fausse modestie, mais il n'est pas facile de venir entendre parler de son livre, car c'est entendre un peu parler de soi. Et c'est un exercice auquel nous ne sommes pas forcément familiers. En tout cas, je ne le suis pas. Donc, j'ai à la fois beaucoup de remerciements, d'honneur et également un peu d'angoisse sur l'organisation de cette table ronde. Je voudrais également, avant de commencer, remercier les intervenants, Jacques Ayos, Pierre Mort, Patrick Waxman et Christian Vigouroux, qui ont accepté de se prêter à l'organisation de cette table ronde et donc de devoir lire ce manuel de droit administratif avec évidemment tout le volume qu'il contient. Et donc je les remercie d'avoir accepté cette proposition qui leur a été faite par l'Institut Michel Villet. Alors, il m'a été demandé de présenter en un quart d'heure, 20 minutes, ce manuel. Là aussi, c'est une tâche qui n'est pas très, très évidente. Donc, je voudrais simplement insister sur trois points qui me semblent refléter l'esprit dans lequel j'ai conçu cet ouvrage. Je pense que c'est ce qui était important à dire en introduction, avant d'écouter les remarques que j'attends avec impatience des membres de cette table ronde. Je dirais tout d'abord que cet ouvrage est en partie une dette. C'est en partie une dette à l'égard de mon maître. Et je voudrais commencer par ici, saluer sa mémoire. Il s'agit de Jean-Jacques Bienvenu. Jean-Jacques Bienvenu a été mon directeur de thèse et pendant ces années à ses côtés, j'ai beaucoup appris, évidemment à côté de lui, à ses côtés, en l'entendant. Et notamment, nous avons longuement parlé d'un des points communs qui nous unissait et qui était l'objet même de mon travail, à l'époque l'écriture de ma thèse de doctorat, à savoir la méthodologie que j'avais choisie. Et ayant un certain goût pour l'histoire, en effet, plus que pour la théorie ou la philosophie, j'avais, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet de ma thèse de doctorat, qui portait sur les rapports entre le droit civil et le droit administratif, j'avais évoqué mon désir de le traiter sous un angle historique, et donc j'avais beaucoup lu les auteurs qui s'étaient intéressés en France, en Allemagne, évidemment, à la méthode historique du droit. Donc, bien évidemment, Savigny, mais en France, Saleil, Jean-Jacques Bienvenu avait une grande admiration pour Raymond Saleil, évidemment aussi pour Pierre Legendre, dont il avait été l'assistant à Nanterre. Donc, nous avions beaucoup parlé, et moi, jeune apprenti, au cours de mes années de thèse, je parlais toujours de la méthode historique. Et au fur et à mesure de ces années, et puis plus tard, ensuite, lorsque j'ai continué au-delà de la thèse de doctorat, j'ai voulu essayer de formaliser un peu ce que m'avait transmis Jean-Jacques Bienvenu. Jean-Jacques Bienvenu ne m'a jamais transmis, clé en main, une méthode. Il n'a jamais d'ailleurs lui-même défini cette méthode qui avait sa préférence. Il ne l'a jamais écrit, n'a jamais rédigé une quelconque présentation de sa manière de faire. Mais pourtant, en un mot, je crois qu'il m'a transmis une certaine sensibilité. Il aimait d'ailleurs ce mot-là. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, notamment au travers des petits caractères. Il m'avait dit finalement, ce que vous faites, ce n'est pas une méthode historique, c'est une méthode généalogique. Et chez Jean-Jacques Bienvenu, la généalogie du droit, et après on en a évidemment souvent reparlé, c'était évidemment une allusion à la généalogie de la morale de Nietzsche. Ce qu'il voulait dire par là, je crois, et j'ai longtemps essayé de préciser sa pensée, on en a très longuement reparlé, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, et je m'en explique un peu également dans la préface, C'est d'abord cette idée que l'histoire pour l'histoire ne m'intéresse pas. La restitution linéaire d'une chronologie, d'une filiation, n'est pas la préoccupation première de cette méthode que j'aurais bien vu appeler généalogique. Il m'avait dit un jour, ce qu'on essaye de faire avec affection, puisque dans le « on » il m'associait, c'est essayer de mesurer l'épaisseur historique des institutions juridiques. C'est d'essayer de mettre à l'épreuve, et c'est là où on est très proche évidemment de la généalogie de la morale pardon, chez Nietzsche, de mettre à l'épreuve les valeurs sur lesquelles repose le droit administratif. Parce que notre sujet était évidemment le droit administratif. Et c'est le premier point sur lequel j'insiste. S'il y a un parti pris méthodologique dans cet ouvrage, et donc une autre voie pour essayer d'aborder le droit administratif, c'est, je crois, cette idée d'un travail de mise à nu, d'un travail de dépouillement. Pour dépouiller les institutions juridiques, les règles de droit, notamment pour les dépouiller des représentations mentales qui peuvent les entourer et éventuellement les déformer. Mais, et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, parce que ce n'était pas forcément facile, et ça ne l'est toujours pas, c'est toujours une recherche que je mène, je crois que, et c'est ce qui sépare peut-être la méthode généalogique ou de la méthode historique, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire ce travail de dépouillement, de mise à nu. Il ne s'agit pas, autrement dit, simplement de démystifier le droit administratif, ce qu'au fond, beaucoup d'auteurs font également et avec talent. Il ne s'agit pas simplement d'exposer les ressorts cachés du droit administratif, de mettre à jour notamment ses fondements idéologiques. Il s'agit d'évaluer, si je peux reprendre un jour cette idée que m'avait soufflé Jean la Bienvenue, d'évaluer les produits de la culture juridique en fonction de leur provenance et de révéler ainsi et de sous-peser, et peut-être après, pourquoi pas, de les renverser et de les remplacer, ça c'est une autre tâche, de révéler les valeurs sur lesquelles repose une discipline juridique. Et comme j'ai essayé de l'expliquer dans ma préface, c'est ce que, pour laisser à Jean la Bienvenue la paternité de cette idée, c'est ce que moi j'ai essayé d'appeler la méthode contextualiste. En y travaillant encore récemment, ça m'a fait penser à une formule que l'on prête à Pasteur à la fin de sa vie, notamment vis-à-vis de certains de ses élèves, qui dit, mais finalement c'est vrai, le microbe n'est rien, le milieu est tout. Eh bien, j'aurais envie de dire que si j'ai essayé de faire quelque chose, et sans doute est-ce encore imparfait et cela méritera d'être amélioré, j'en suis bien conscient, c'est qu'une première édition et rien n'est définitif, mais c'est de dire que la notion juridique n'est rien, le milieu est tout, et qu'il faut essayer de la reprendre et de la replonger dans son milieu pour essayer de comprendre comment certaines institutions juridiques sont à la fois nées et se sont développées. Et il me semble que le droit administratif est un terrain d'expérimentation particulièrement privilégié pour cette méthode contextualiste. Parce que s'il y a bien une discipline, et notamment en France, et surtout en France, ce manuel n'est qu'un manuel de droit administratif français, et je m'en explique également en introduction, s'il y a bien un exemple, c'est ce droit administratif français, avec notamment le poids, on le sait, de la jurisprudence du Conseil d'État, et du poids tout simplement de l'institution du Conseil d'État, qui va ainsi façonner, modeler, donner une certaine image et une certaine représentation mentale du droit administratif. Et donc, le droit administratif français se prêtait bien à cette enquête généalogique, à cette enquête, essayant un peu de voir et de sous-peser, de mettre à nu, d'évaluer les produits de cette jurisprudence, notamment en fonction de leur provenance, d'où le goût, cette sensibilité pour le point de départ historique, pour la racine, plus que pour l'histoire, pour la racine, la genèse. D'où viennent ces règles et comment ont-elles ensuite été façonnées? Et comme quelle représentation les différents acteurs du droit parviennent-ils à en donner? Donc, ce manuel n'est évidemment pas que cela, mais c'est la première chose sur laquelle je voulais vraiment insister, parce que il a été conçu comme une dette à l'égard de ce que m'avait transmis Jean-Jacques Bienvenu, et il avait pu d'ailleurs m'en parler. Et là, c'était une période de sa vie un peu difficile lorsque l'ouvrage a été publié. Il en a été évidemment le tout premier destinataire, et il avait eu malgré tout la possibilité de me dire un certain nombre de choses. Donc voilà, je suis heureux d'avoir pu essayer de formaliser certaines de ses idées. Il aurait sans doute fait bien, bien mieux que moi. Le deuxième point que je voudrais indiquer dans cette présentation générale, c'est l'esprit dans lequel ont été rédigés ce que j'appellerais les grands caractères. L'idée, c'est de présenter le droit administratif à celui qui veut l'apprendre, donc c'est de l'enseigner, de le présenter tel qu'il est, ou plutôt tel qu'il paraît être, c'est-à-dire tel qu'il nous est donné. Alors c'est une formule qu'aiment bien les sociologues, mais bon, j'en raffole pas toujours, mais tel qu'il nous est donné à voir, et de le prendre ainsi. Ce qui a nécessité mon choix de recourir, je dirais, plus à une posture de neutralité, d'objectivité de la juri, du juriste, de la doctrine. Je ne suis pas encore convaincu que celui qui écrit sur le droit puisse être neutre, mais plutôt une posture d'impartialité. Après tout, pourquoi ne pas revenir vers ce que nous connaissons bien, nous juristes, c'est-à-dire ce que fait le juge? Alors, c'est peut-être un petit peu très personnel comme vision des choses, et tout cela évidemment est sujet à discussion. Mais pour moi, plus que l'objectivité du scientifique face aux phénomènes qu'il observe, car je ne suis pas sûr que celui qui écrit un ouvrage juridique, qui écrit sur le droit, puisse être neutre et se passer de certains jugements de valeur, mais au moins peut-il essayer d'être impartial, c'est-à-dire d'aborder la matière qu'il va essayer de présenter, de résumer et de présenter dans un manuel, en faisant abstraction de ses vues personnelles, en essayant, là aussi, de se dépouiller, de faire le vide en soi, et d'essayer de se dépouiller de ses certitudes établies, et de prendre cette matière qui lui est présentée devant lui, et je vais y revenir, avec le moins d'idées préconçues. Ce qui suppose, au moment où l'on passe à la rédaction d'un ouvrage tel que celui-ci, de faire un gros travail. C'est un travail qui m'a pris du temps. Je ne suis pas certain d'y être arrivé, et peut-être aurais-je des questions et des remarques et des critiques sur ce plan, mais en tout cas d'essayer de faire cet effort d'impartialité, c'est-à-dire d'absence de préjugés ou de préjugements sur cette matière qu'il va falloir présenter. Et c'est ce qui explique ce que j'ai essayé de faire dans les grands caractères. Alors, d'abord, car la question m'a déjà été posée, quel est ce droit administratif tel qu'il se donne à voir? Est-ce que c'est la législation? Est-ce que c'est la jurisprudence? Est-ce que c'est la doctrine? Et comment parvenir à être impartial à l'égard de tous ces éléments pour l'exposer de manière non pas la plus neutre possible, mais la plus impartiale possible. Alors oui, c'est ce tout. Et je dirais que c'est quelque chose que j'ai appris, notamment à une autre occasion en travaillant l'œuvre de Gene Godmey. Je crois que le droit, c'est une totalité en mouvement. Alors, d'abord, c'est en mouvement. Donc, bien évidemment, la présentation de ce droit administratif ne peut pas être faite avec un regard exclusivement tourné vers le passé. C'est le danger d'une pure méthode historique, ou d'un point de vue d'historien du droit. Ce que j'ai essayé de ne pas faire. Autrement dit, c'est l'idée de prendre le droit administratif tel qu'il est au moment où l'on rédige l'ouvrage. C'est-à-dire, pas simplement en regardant dans le passé et pas non plus en faisant des spéculations sur l'avenir, mais en le prenant tel qu'il est. Pour vous faire une petite confidence d'auteur, j'avais à la base pensé à un tout autre plan. Un tout autre plan, et c'était déjà il y a longtemps, avant que le mouvement de subjectivisation du droit administratif soit marqué, je me suis dit, à partir du jour où cet ouvrage a été pensé, je me suis dit, bah, essayons de faire quelque chose de très différent. Par exemple, partons du point de vue de l'administré et faisons un manuel droit administratif, un plan droit administratif entièrement tourné d'un point de vue subjectif. Où ce ne serait plus le principe de l'égalité, mais le droit à la légalité, ce serait droit au recours. Fait un manuel de présentation du droit administratif français uniquement en partant de ce prisme-là. Et puis, j'ai abandonné cette idée parce que je me suis rendu compte que ça ne reflétait pas ce qu'est l'état actuel du droit administratif français. Donc, parce que l'objection m'a déjà été faite par certains membres du Conseil d'État. Je regrette que Christian Dugroux soit pas encore là ou là, mais l'objection m'a déjà été faite en me disant, mais vous ne présentez pas toutes les extraordinaires évolutions que notre jurisprudence connaisse. Mais je leur ai dit, mais j'essaye de faire une photographie à cet instant T, mais cette photographie, c'est le résultat d'une accumulation de tout ce qu'est le droit administratif depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, le jour où le principe de confiance légitime sera reconnu dans la jurisprudence du Conseil d'État, ben je l'afficherai comme un des principes. Mais à ce jour, ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de raison de forcer la nature du droit administratif français. J'ai tenu à retracer dans l'un des chapitres les évolutions, effectivement, de subjectivisation que connaît le recours au procès de pouvoir, sans que pour autant il perce, me semble-t-il, sa figure de recours objectif. J'ai notamment, par exemple, dans le chapitre sur les actes administratifs unilatéraux, consacré une section entière à la sanction administrative, qui était toujours présentée, du moins dans les anciens manuels, comme au titre des règles d'application dans le temps de l'acte administratif. Alors, il me semble que, au regard de toutes les évolutions récentes, enfin, plus ou moins récentes, de la jurisprudence et administrative et constitutionnelle, il y a un moment où la sanction administrative, c'est pas simplement, au même titre que le retrait et l'abrogation, quelque chose qui concerne l'application dans le temps de l'acte, mais c'est véritablement une question de. C'est une décision administrative à part entière, c'est un exemple, et c'est sans doute l'exemple de la décision aujourd'hui la plus intéressante à replacer dans les évolutions contemporaines. Donc, je ne m'interdis pas, et je ne me suis pas interdit d'essayer de retracer ces actuelles évolutions. Mais il faut avoir un peu de distance et un peu de recul avant de pouvoir bousculer le plan en droit administratif et de dire par exemple que ça y est, en droit administratif français, il y a un droit à la légalité. Avant d'afficher cela dans un titre de chapitre ou de partie, je crois qu'il y a un processus qui est plus long. Et alors peut-être que je n'ai pas suffisamment le sens de l'actualité, c'est peut-être mon défaut historien, mais en tout cas, j'ai quand même essayé de retracer ce mouvement. Mais le droit, c'est une totalité en mouvement. Et le droit administratif, c'est une totalité. Et dans cette totalité, eh bien, il me semble que c'est le droit administratif, c'est cette photographie du droit administratif à l'instant T telle qu'il nous est parvenue. Et telle qu'il nous est parvenue, il y a la manière dont le Conseil d'État essaye de nous le présenter, de nous le façonner, et la manière dont la doctrine l'a façonné jusqu'à présent. Et donc là, je n'exprime pas un point de vue personnel. Je ne défends pas l'objectivité, par exemple, du droit administratif, l'objectivisme par rapport au subjectivisme. C'est que il me semble, alors avec toute la limite comme je vous l'ai dit, de mon travail de mise à nu et d'essayer de ne pas d'essayer de me dépouiller moi-même de mes certitudes établies, de faire le vide en moi. Mais il me semble, au regard d'un certain nombre d'aspects de la jurisprudence du Conseil d'État, notamment toute la jurisprudence relative à l'acte administratif réglementaire, que notre droit administratif conserve une grande part d'objectivisme, et ce serait le présenter de manière un peu fausse par rapport à ce qui paraît être aujourd'hui que d'essayer de le présenter uniquement comme devenu un droit administratif subjectif qui rejoindrait d'autres d'autres régimes administratifs à travers l'Europe. Alors, pour illustrer mon propos et pour prendre un exemple, il aurait été faux, parce que on apprécie à titre personnel les travaux d'Hugui, l'égal objectiviste, d'avoir un prisme purement d'Huguiste pour présenter le droit administratif français d'aujourd'hui. Parce que le fait est, et notamment j'ai consacré tout le titre 2, enfin le sous-titre 2 dans la première partie, il me semble que ce n'est pas la non-souveraineté et la non-personnalité, comme l'école objectiviste l'avait réclamé, qu'il a emporté en droit administratif français, c'est bien à la fois la souveraineté. Il suffit de regarder par exemple comment le Conseil constitutionnel justifie le caractère indélégable de certaines missions, notamment des missions de police administrative. Il se réfère aux missions inhérentes à la souveraineté de l'État, et de la même manière, la personnalité juridique des différentes composantes de l'administration est, me semble-t-il, une caractéristique du droit administratif français. Donc à travers la souveraineté et la personnalité, je ne fais pas prévaloir forcément de préférence personnelle, mais il me semble que c'est le droit administratif français tel qu'il paraît être, et il me semble que dans un esprit ensuite de comparaison avec d'autres droits, ce dont je n'étais absolument pas capable de faire, eh bien, il est important de continuer de montrer ce qu'est encore aujourd'hui le droit administratif français, quitte ensuite à critiquer tout cela. Et c'est ce que j'ai parfois essayé de faire dans les petits caractères. Donc je ne présentais pas un point de vue personnel ou ce n'est pas un désir de voir conserver le caractère objectif du droit administratif, c'est cette idée de photographie. Je prendrai un dernier exemple sur ce deuxième point. Souvent, le service public est présenté comme une finalité. Et si j'ai essayé de faire un tout petit peu preuve d'originalité dans la deuxième partie, en présentant les différents pouvoirs de l'administration, c'est d'essayer de les présenter à travers cette idée justement de pouvoir. Le pouvoir réglementaire ou l'exécution des lois. L'équilibre entre les libertés et la puissance publique, en matière de et l'ordre public, en matière de ou le pouvoir de police. Et pour les services publics, il m'a semblé, avec ce travail d'impartialité que je me suis efforcé de me faire à moi-même, il m'a semblé que c'était pas simplement une position personnelle d'Orioux, mais il m'a semblé que le pouvoir de gestion du service public était une chose très importante en droit administratif français, et que l'on retrouve bien évidemment à travers toute une série de jurisprudences sur l'organisation de la grève dans le service public. L'arrêt de Haine est lui-même un dérivé de la jurisprudence Jamard du Conseil d'État de 1936. Donc c'est pour ça que j'ai présenté le pouvoir de gestion ou l'exploitation des services publics, et j'ai essayé de faire cette présentation. Et je crois, en tout cas, cette idée ne m'est pas venue parce que tout d'un coup, j'avais envie de réhabiliter Orioux. C'est pas l'esprit des grands caractères, mais parce qu'il me semblait que ça traverse et la doctrine et la jurisprudence. Donc, c'est cette espèce de totalité que l'observateur hérite et qu'il essaye de restituer à son lecteur. Enfin, troisième point, et je m'arrêterai là dans cette présentation de cet ouvrage. La rédaction de cet ouvrage, alors c'est une question peut-être un peu plus d'auteur, donc ça peut-être intéresse moins le public, mais je me suis dit qu'à l'occasion d'une table ronde sur la manière d'écrire le droit administratif, c'était important. C'est la question, au fond, de la forme de cet ouvrage. Parce que depuis maintenant un an qu'il a paru, on me pose souvent la question, mais c'est un manuel ? Certains me disent, mais c'est un traité ? Alors, c'est une question qui occupe beaucoup certains des lecteurs. Et je crois que, en fait, je suis parti de l'idée que j'ai du mal à savoir ce qu'il faut mettre dans cette distinction. Est-ce que c'est un manuel ? Est-ce que c'est un traité ? Est-ce que c'est un précis ? J'ai toujours trouvé que cette distinction était assez énigmatique. Elle était variable à travers le temps et les époques. Et qu'elle était un petit peu... c'est une distinction aux frontières un peu poreuses. Il me semble que la distinction est à faire entre l'ouvrage de pratique et l'ouvrage de doctrine. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un ouvrage de doctrine. Et cela explique, là aussi, certains partis pris méthodologiques. Puisqu'il s'agit d'un ouvrage sur le droit administratif français, ben, il y a un peu, un jour, un ami m'a dit, c'est un peu un tout en un, ton ouvrage. Ça tient du traité, mais ça tient en fait aussi du manuel, ça tient même parfois du cours. Et c'est vrai, notamment dans la manière de présenter les grands arrêts de la juridiction administrative, ce n'est pas parce que j'ai une vénération pour l'idée du grand arrêt, mais parce que dans un ouvrage de droit administratif, je crois que la pédagogie par l'exemple était quelque chose qui m'était important. Donc la pédagogie par l'exemple, prendre un cas concret pour essayer d'exposer, notamment dans les grands caractères. Et c'est vrai que parfois, je suis presque à la limite, dans certains passages, du cours oral de la présentation. Donc il y a un peu tout cela dans l'ouvrage. Et évidemment, les grands et les petits caractères me permettent évidemment de pianoter sur plusieurs gammes. Ça, c'était tout à fait volontaire. Alors, voilà. Si j'espère avoir produit une petite originalité, c'est celle-là. C'est d'avoir essayé de pianoter sur différents claviers ou sur différentes gammes, et plutôt tonalités, et d'avoir essayé de pouvoir parler à plusieurs types de lecteurs, ce qui n'était pas forcément quelque chose de facile à faire, parce qu'il faut savoir à chaque fois ce que l'on va mettre dans le grand caractère ou dans le petit caractère. Ça m'a causé bien des problèmes d'auteur, mais je n'insiste pas plus, parce que ça sont des questions un peu personnelles de rédacteur d'ouvrage, mais je suis évidemment toujours évidemment heureux d'entendre des questions sur ces questions de fabrication, parce que je crois qu'on ne peut pas parler d'un ouvrage sans parler des problèmes qui ont accaparé son auteur. En tout cas, je m'arrête là pour présenter ce à quoi je tenais à dire en introduction, et je remercie encore l'Institut Michel-Villet d'organiser cette table ronde autour de mon ouvrage.